Vous écoutez RFI, il est 17h en temps universel, 19h à La Haye et à Paris.
RFI Soir, Guillaume Ouattara.
Mardi 24 juin, très heureux de vous retrouver pour votre soirée d'information sur RFI. Et au programme, dans 10 minutes, accent d'Europe, le sommet de l'OTAN aux Pays-Bas et les réponses disparates des pays européens pour suivre l'exigence de dépenses de défense à 5% du PIB. Les Allemands, eux, communiquent désormais auprès du public pour essayer de recruter de nouveaux soldats, vous l'entendrez. Dans une demi-heure, le débat du jour et les réseaux sociaux. On se posera cette question, ces réseaux, est-ce qu'ils vont définitivement tuer les médias traditionnels? Les derniers chiffres du Reuters Institute sont franchement accablants. Les Américains, par exemple, s'informent davantage via leur téléphone qu'à la télévision, avec tous les risques de manipulation que ça comporte. Dans RFI Soir, 18h TU, le grand journal du soir, et le dossier qui reviendra sur Donald Trump et une posture déjà controversée à l'OTAN. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, mardi politique avec ce soir la députée de la France Insoumise, Danielle Obono. Enfin, le grand reportage nous emmène au Brésil, où l'artisanat est devenu la planche de salut pour les femmes de la vallée du Jequitinhonha. Kitty Nona. Voilà pour le programme et pour l'heure, 19h01 ici à Paris, c'est l'heure du journal du soir avec vous, Adrien Delgrange, bonjour.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, un dîner à l'invitation du roi des Pays-Bas.
C'est en effet le premier rendez-vous officiel des dirigeants des 32 pays de l'OTAN qui se retrouvent en ce moment à La Haye, sommet annuel de l'Alliance Atlantique Politique et Militaire que vous suivez pour nous. Julien Chavannes, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Cette année, un sommet mis sous tension par Donald Trump.
Oui, le président américain a fait baisser la température de plusieurs degrés ici. Air Force One venait à peine de décoller, qu'il faisait trembler ses partenaires de l'OTAN. Interrogé sur l'engagement des États-Unis à défendre ses alliés, Donald Trump est resté très flou sur l'article 5, article qui prévoit que si un pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours. Il peut se définir de plusieurs façons, a-t-il lancé en semant le doute. Les Européens qui pensent avoir amadoué le président américain en promettant de donner 5% de leur PIB à l'OTAN en sont pour leurs frais. Seul à réagir ici pour l'instant, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a esquivé la polémique.
Well, he is legally correct. Eh bien, il a raison juridiquement. Rappelons que l'article 5 est volontairement vague, car c'était la formulation la plus ferme que le Congrès américain était prêt à adopter dans les traités dans les années 1940.
Et Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a publié sur son réseau social le message dithyrambique que lui adressait le chef de l'OTAN, Mark Rutte, après les frappes américaines en Iran. Extraordinaire, grand succès. Le Néerlandais a tressé des lauriers au président américain, qui n'a pas pu s'empêcher de le faire savoir. Les pays de l'OTAN lui déroulent le tapis rouge, sans garantie de succès. Donald Trump, lui, s'en amuse et en profite. Le président américain dormira ce soir dans le palais du roi et de la reine des Pays-Bas et non pas à l'hôtel qui lui était réservé à l'origine.
Merci Julien. Julien Chavannes, envoyé spécial d'RFI. À La Haye, pas de bombardement de part et d'autre. Le cessez-le-feu semble respecté à l'heure actuelle entre l'Iran et Israël. Alors qu'un arrêt des combats est entré en vigueur aujourd'hui, le président iranien Massoud Pezeshkian réaffirme que son pays ne cherche pas à se doter de l'arme atomique, mais qu'il continue tout de même à défendre ses droits légitimes pour son programme nucléaire civil. 20h04 à Gaza, ce nouveau carnage dans la bande de Gaza aujourd'hui lors d'une distribution d'aide alimentaire. Au moins 46 morts et des dizaines de blessés victimes de l'armée israélienne. Des milliers de Gazaouis affamés attendaient près d'un centre de distribution de nourriture lorsque des soldats israéliens ont fait feu. Israël n'a pour l'heure ni commenté ni justifié cette attaque. En un mois, selon l'ONU, plus de 400 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne alors qu'ils tentaient d'atteindre ces points de distribution de nourriture, des points de distribution de nourriture gérés par la GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, un organisme sous le feu des critiques, soupçonné, Yelena Tomic, de complicité de crimes de guerre.
L'émoi est immense face aux scènes chaotiques qui se répètent à de très nombreuses reprises lors des distributions de nourriture coordonnées par la GEDHF, cet organisme au financement opaque soutenu par Israël et les États-Unis et avec lequel de nombreuses ONG et l'ONU refusent de travailler. Selon le ministère de la Santé du Hamas, depuis le début des distributions fin mai, après plus de deux mois de blocage total de l'approvisionnement de la bande de Gaza, 450 personnes ont été tuées et près de 3500 autres blessées par l'armée israélienne alors qu'elle tentait d'atteindre un de ses points de distribution de nourriture. Une abomination humiliante et dégradante pour les personnes désespérées, un piège mortel coûtant plus de vies qu'il n'en sauve, a dénoncé le responsable de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui a appelé à rétablir les principes humanitaires. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a estimé pour sa part que l'utilisation de la nourriture à des fins militaires constituait un crime de guerre. Une quinzaine d'ONG ont dénoncé hier un système déshumanisant et meurtrier et exhorté la GEDHF à cesser ses opérations.
Yelena Tomic, depuis dimanche, se tient à Luanda le sommet États-Unis-Afrique. Plusieurs chefs d'État participent à l'événement. À la tribune aujourd'hui, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Mahmoud Ali Youssouf réaffirme la volonté du continent africain de nouer des partenariats solides et équilibrés. Il a aussi exprimé, face aux représentants américains, la frustration et même la colère qu'a généré ces derniers mois la politique de Donald Trump vis-à-vis du continent africain.
Lorsque des tarifs sont imposés de manière abusive à l'encontre des États africains et pour certains plus de 40% de tarifs, comment est-ce que les affaires et le business vont se développer? En Afrique, nous avions ce privilège de l'AGOA. Aujourd'hui, l'AGOA a été annulée. Nous avions également le privilège d'avoir, je dirais, les programmes d'aide publique au développement à travers l'USAID. Tout ça est parti. C'est vrai, quelqu'un disait, « This is a wake-up call for the African nations. » Yes.
C'est un signal envoyé à l'Afrique. Oui, nous allons compter sur nos propres ressources, élaborer des politiques pour mobiliser ces ressources. Mais nous ne pouvons pas accepter des interdictions de visa. Nous ne pouvons pas accepter des tarifs douaniers qui n'ont rien à voir avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, à la tribune aujourd'hui du sommet entre les États-Unis et l'Afrique qui se déroule depuis dimanche dernier à Luanda. Dans l'actualité française, après l'échec du conclave sur les retraites, le Premier ministre François Bayrou abat sa dernière carte. Il reçoit aujourd'hui séparément les organisations syndicales et patronales qui ont participé aux 4 mois de négociations. Une tentative de la dernière chance pour tenter de surmonter les blocages. Explication, Charlotte Urien-Tomaca.
François Bayrou a tiré sa dernière cartouche pour tenter de trouver une voie de passage sur cet épineux dossier qui pourrait lui coûter son poste à Matignon, puisqu'une motion de censure pèse au-dessus de sa tête. Car le Premier ministre, je cite, « ne se satisfait pas de l'échec du conclave sur les retraites, si près du but ». Pour la CFDT, le Premier ministre doit maintenant prendre ses responsabilités. Marie-Lise Léon.
S'il n'y a pas de financement équilibré en termes d'efforts, ça sera sans la CFDT, qui prenne acte de la situation et puis qu'il en tire les conséquences. Moi, je pense que on a fait largement notre part du boulot et donc maintenant, tout le monde doit prendre ses responsabilités.
Syndicats et patronats se rejettent la responsabilité de cet échec. Patrick Martin, président du MEDEF.
Ils font toujours une victime à un grand méchant. Bon, ça ne m'émeut absolument pas, mais je crois surtout que c'est un écran de fumée pour dissimuler les avancées considérables qu'a faites le MEDEF. Et je peux vous dire que Il y a quatre mois, aucun de nos interlocuteurs syndicaux n'aurait imaginé qu'on aille aussi loin sur tous les sujets que je viens d'évoquer.
FO et la CGT, qui avaient quitté le conclave rapidement après le début des discussions, n'ont pas été invités à se joindre à cette réunion. Une décision que déplore Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Le dernier entretien du jour pour le Premier ministre sera donc à 20h avec le président de la CPME.
Les députés socialistes annoncent déposer une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. C'est ce qu'a annoncé le chef du groupe socialiste Boris Vallaud, invoque le refus du Premier ministre à s'engager de présenter devant le Parlement un texte qui permettrait de débattre de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et puis enfin, le procès en appel de Boualem Sansal en Algérie. Le parquet a requis 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien, aujourd'hui âgé de 80 ans et malade, arrêté en novembre dernier pour des accusations d'atteinte à l'intégrité du territoire. Il est logé d'une bataille diplomatique entre Paris et Alger. La cour rendra son verdict mardi prochain, le 1er juillet. RFI Paris, 19h10.